pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à tous et à toutes, c'est Cindy, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Nous sommes le mardi 11 mars et on se retrouve comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Dans le cadre de la 7e édition de Chantier commun, une journée d'études a été organisée à l'ESAM, décoloniser les imaginaires, le design fiction, outil de controverse ou de nouveaux récits. Mais en quoi consiste le design de fiction? Qu'entend-on par décoloniser nos imaginaires? Et comment le design peut-il nous donner des outils pour repenser notre rapport avec le vivant? Pour répondre à ces questions, Rose s'est rendue sur place pour parler avec Margot Dont, designer et chercheuse d'innovation écologique, sociale et sociétale. On écoute ça tout de suite.
Du coup, tu es designer d'innovation écologique et sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quoi ça consiste concrètement?
Alors, c'est un vaste domaine. Être designer, c'est en gros répondre à des besoins, des problématiques du quotidien et de la société. Designer social, en fait, c'est beaucoup plus centré sur les gens, la société, le social, de manière générale, c'est-à-dire qu'on déploie des méthodologies qui suivent le design thinking, grosso modo, c'est-à-dire qu'on cible un problème ou alors un client vient nous voir, une institution, une région, peu importe, vient nous voir pour nous dire voilà, on a une grande thématique, un gros problème dans un endroit particulier. Et nous, on va aller sur le terrain, on va essayer de re-questionner ce besoin, re-questionner la problématique qui nous a été transmise. On va aller se confronter aux usagers, c'est-à-dire particulièrement aux humains. On va essayer de cibler quels sont l'ensemble des problèmes, mais aussi de re-questionner la problématique, c'est-à-dire que généralement, on peut être confronté à une situation où on nous dit que le problème, c'est cette chose-là, mais en fait, c'est complètement à côté, ça n'est pas du tout le réel problème, le réel besoin dont la société a envie qu'on traite en formalisant un projet, un service, un objet ou que sais-je. Donc voilà, ça c'est déjà une première démarche. Et puis par la suite, on va proposer des prototypes, on va faire des recherches un peu théoriques, on va les appliquer par la pratique, des formes matérielles, qu'on ira confronter par la suite encore aux usagers, que ce soit dans l'espace public ou des participants ou que sais-je, sous différents formats. Ça peut être des formats de focus group, ça peut être des formats sur le terrain, des prototypes qu'on met dans l'espace public pour voir comment les usagers les utilisent, quels peuvent être les dérivés, c'est-à-dire comment on utilise de manière dérivée ces objets ou la solution qu'on propose. Et c'est un peu la même technique en fait que les ingénieurs, c'est-à-dire c'est des tests, essais, erreurs. Et puis on fait tout le temps des va-et-vient comme ça entre les usagers, nous les prototypes solutions qu'on apporte pour répondre à un besoin tangible. Et après c'est soit tu passes à une commercialisation en série, si tu t'orientes plutôt dans un but industriel, ou alors c'est des choses beaucoup plus locales, c'est-à-dire situées à un besoin qui est situé dans un périmètre cadré, prédéfini, et on le laisse aux usagers qui après le développent selon leurs besoins, selon leur volonté et au cours du temps. Ça, c'est surtout pour l'aspect, du coup, design social. C'est un design qui n'est pas trop développé, et encore que de plus en plus. En fait, si tu veux, ce design social, c'est venu d'un théoricien qui s'appelle Victor Papanek, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Design pour un monde réel dans les années 1970. Je ne me souviens plus de la date exacte, je pense que c'est 1974, mais à vérifier. Où lui, justement, il se mettait en porte-à-faux avec le design industriel qui était déployé à cette époque-là, en disant qu'en fait, les designers faisaient du design de faux besoins, ils créaient des faux besoins, ils créaient des faux désirs pour justement enrichir le consumérisme, ce gros système économique qu'on appelle le capitalisme. Et lui, justement, Papanek disait au contraire qu'il fallait arrêter le design si on poursuivez dans cette voie-là, mais au contraire, si on voulait continuer à faire du design, alors il fallait faire du design localisé qui répondait aux besoins réels de la société et des gens, des usagers qu'on avait en face de nous. Alors après, le design écologique, l'innovation écologique, c'est encore un autre point. Pour commencer, l'appellation innovation, c'est un peu comme les grands mots, les gros mots valises comme la transition, la durabilité, la soutenabilité. C'est des mots qui ont été largement exploités, réappropriés par les sphères institutionnelles, gouvernementales, les sphères aussi industrielles. Alors, c'est vachement critiquable, le terme d'innovation, en fait, ça s'inscrit dans des méthodes de faire, c'est-à-dire que quelqu'un qui invente quelque chose, c'est un artefact, par exemple, qu'il va inventer, ça s'inscrit dans le temps long, mais qui va pas forcément être appliqué directement. Alors que normalement, l'innovation, c'est quelque chose que tu peux mettre en place de but en blanc, dès que tu la sors et qui peut se développer à grande échelle directement et qui répond à un besoin concret, tangible, direct de la société dans l'époque où tu es actuellement. Alors que l'invention, ça serait plutôt un artefact, je reprends le terme d'artefact pour être un peu général, ça serait un artefact qui est en rupture avec le temps et qui s'inscrit dans un temps long et qui, généralement, ne fait pas consensus à l'époque donnée où cette invention émerge. Alors, moi, en parallèle, je fais partie du collectif Zoépolis. C'est un collectif qui a été fondé en 2019 ou 2020 par Nicolas Rush, qui est un designer-chercheur. Et en fait, nous, on s'inscrit dans cette prolongation de rupture entre un design industriel de faux besoins, un design social qui est centré sur l'humain. Et nous, on prolonge un peu cette pensée, surtout Nicolas, qui est le fondateur de Zoépolis. Il marque une rupture en disant qu'il faut arrêter de faire du design qui est centré sur les humains, mais il faut faire un design qui prend en considération toutes les espèces vivantes, parce que nous, les humains, nous faisons partie d'un grand système qui s'appelle la vie. Et du coup, nous prenons un design qui serait désanthropocentré, c'est-à-dire un design qui est recentré sur les vivants, les relations interspécifiques, c'est-à-dire les relations que nous entretenons avec les milieux, avec les êtres vivants, mais également, en fait, ça se localise dans différentes échelles. Ça peut être d'un point de vue local, d'un point de vue régional, d'un point de vue macro, global, comme on peut dire. Alors, au sein de Zoépolis, on a plusieurs axes de recherche. On en a cinq, dont deux transversaux. Le premier axe, c'est un design qui est centré sur les vivants. Un deuxième axe qui est centré sur les relations interspécifiques. Et il y a deux axes transversaux, dont un qui re-questionne les imaginaires, d'où la conférence, d'où le cycle de conférences aussi aujourd'hui, sur lequel je m'appuie particulièrement et dans lequel mes recherches s'ancrent, en fait. Pour développer des nouvelles manières de penser notre monde, penser nos modes de vie, nos modes d'existence, et du coup de repenser notre manière d'être en relation avec la Terre, les vivants, par le biais de l'outil qu'est le design.
Alors justement, tu mentionnes ton travail. Toi, tu te concentres particulièrement sur le secteur spatial et tu mènes une thèse recherche-projet sur la problématique des fictions intersubjectives dans l'Anthropocène. Alors ça fait un peu peur comme terme. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'une fiction intersubjective et comment tu l'intègres dans ton travail de designer d'innovation ?
Alors en fait, si tu veux, une fiction intersubjective, moi je la définis comme étant un récit. C'est un régime de représentation qui rassemble des images, des récits, des discours et qui tisse cette toile immatérielle qui fonde par la suite l'aspect matériel de notre société. En fait, si tu veux, nous vivons dans un monde fictionnel. Par exemple, une des plus grandes fictions qui régit notre monde, c'est par exemple l'argent, le système capitaliste, la famille, c'est une construction sociale. Ce sont des bons exemples qui illustrent un peu ce que c'est une fiction intersubjective. Une fiction intersubjective en soi, ça paraît abstrait, mais c'est très concret parce que dès que tu fais émerger une pensée, notamment chez nous les designers, dès qu'on projette quelque chose, on le matérialise à travers des formes Et du coup, c'est ce qui transforme notre monde, mais aussi notre manière de percevoir nos environnements, donc notre monde. Alors, ces fictions intersubjectives, elles ont pour rôle central de générer de la coopération, de la coordination et de créer des mondes communs entre nous, les humains. Or, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que nous sommes dans une période controversée qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire étymologiquement l'ère de l'homme, c'est-à-dire que l'homme est devenu semblable à une force géologique terrestre capable d'impacter durablement l'écosystème Terre, donc la vie et donc l'humain. Et que cette anthropocène, cette période qu'on appelle anthropocène, est advenue à cause de nos fictions, notamment des fictions liées au fait que l'humain serait une espèce élue qui pourrait dominer la nature, l'utiliser pour ses propres besoins. On a d'autres grands récits, comme le récit du progrès, le récit de la croissance, le récit de l'extractivisme illimité. On a aussi un autre récit qui est surtout prédominant dans la sphère scientifique, qui est la dualité entre la nature et la culture, et qui nous a amené justement au fait de percevoir la nature non plus comme un sujet, mais comme un objet avec lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. Et justement, en fait, l'une des grandes problématiques, et c'est pour ça qu'on parle de pensée systémique et de problèmes complexes ou de polycrise, c'est que une fiction ne vit dans nos esprits jamais seule. Elle est liée, elle est tissée à travers un régime de fiction. Et par exemple, si on prend la fiction de la dualité entre la nature et la culture, on se rend compte aussi qu'il y a d'autres imaginaires qui ont émergé, comme le fait que nous sommes en soi, que l'être vivant ne serait qu'un algorithme ou qu'une machine, et donc qu'on pourrait le modifier à souhait, ce qui a engendré d'autres courants, comme par exemple le transhumanisme, la biotechnologie, etc. Le problème, c'est qu'alors aujourd'hui, avec l'anthropocène, on se rend compte que nos fictions, elles sont complètement décorrélées du monde réel, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas penser ou vivre dans un système économique ou qui est régi par des fictions de croissance et de progrès illimité, alors que nous vivons dans un monde fermé, donc avec des ressources limitées, et avec ce qu'on appelle... En fait, nous vivons dans un système de boucle de rétroaction fermée. C'est la thèse de James Lovelock avec l'hypothèse Gaïa. C'est de dire que à partir du moment où tu dépasses une limite planétaire, et on en a posé 9, à partir du moment où tu dépasses une limite planétaire, ça engendre des cycles négatifs qui dégradent encore plus l'environnement. Et comme c'est un système complexe, on ne sait jamais vers quoi ça peut tendre et jusqu'à où ça peut se dégrader, jusqu'à où l'écosystème Terre peut se dégrader. Une autre grosse problématique qu'on a actuellement également, c'est que sur la scène médiatique, on met souvent en avant le réchauffement climatique. Or, nous sommes dans une crise, même dans une extinction de masse de la biodiversité, d'où notre travail au sein de Zoépolis, de dire que justement il faut repenser notre relation avec les vivants, notre relation avec l'écosystème Terre, mais de manière plus locale avec les milieux qui nous environnent, pour justement essayer de réenclencher positivement ces boucles de rétroaction qu'on a mis dans une situation de crise, de polycrise, pour justement repenser nos modes de vie, nos modes d'existence et tenter de préserver la biodiversité qui reste actuellement et les milieux, de préserver ces milieux car sans eux, on ne vit plus.
Et alors justement, toi, à travers le design fiction, ton travail, ça va être de construire de nouvelles fictions pour construire de nouveaux imaginaires et donc nous amener à penser autrement que dans cette vision qu'on a aujourd'hui. Je pense notamment au secteur spatial. Ce matin, tu parlais de SpaceX et de cette idée de si la Terre va mal, on n'a qu'à partir ailleurs, explorer l'espace et aller vivre, par exemple, sur Mars. Et donc, toi, ton travail de design innovation, ce serait de proposer d'autres scénarios, d'autres voies possibles, c'est ça ?
Oui, en fait, là, il y a une grande tendance qui émerge de plus en plus, malgré le fait qu'on a eu une forme d'éveil écologique dans les années 60, 70, 80, notamment avec des œuvres phares comme Le printemps silencieux de Rachel Carson, ou encore les fameux rapports Meadows qui ont été mis à jour. Le premier est sorti en 1972, mais il y en a un autre qui est sorti en 2009, et un plus récemment. Malgré cette prise de conscience écologique, il y a eu un imaginaire dans la sphère du secteur spatial qui prédomine à l'heure actuelle, notamment le New Space, qui a été enclenché ou qui a pris racine dans différentes théories, dans différents travaux d'astrophysiciens, d'ingénieurs et de scientifiques, mais qui s'est particulièrement ancré à travers la phrase de Tchaïkovski, qui est de dire que l'être humain, la Terre est le berceau de l'être humain, mais on ne vit pas pour toujours dans notre berceau. C'est donc l'idée de projeter l'avenir de l'humanité au-delà des frontières de la Terre. Et malgré justement cet éveil écologique dans les années 60, 70, 80, qui disait qu'il fallait réfréner ce modèle, ce monstre qu'on prénomme généralement le capitalisme, de le réfréner, de dire que non, en fait, nous vivons dans une fiction qui est complètement déconnectée du monde réel, que ce n'est pas possible de baser un système économique sur des ressources illimitées alors que nous vivons dans un milieu fermé. Eux, ils ont pris au contraire le contre-pied en disant que justement, en fait, le fait que la Terre est un système fermé, qui a des ressources limitées, pourquoi pas alors aller justement ailleurs, dans l'espace, pour poursuivre ce modèle et pouvoir utiliser toutes les ressources à disposition qui sont autant sur des astéroïdes, sur d'autres planètes. Et de créer des nouveaux habitats, des vaisseaux, ce qu'on appelle des vaisseaux spatiaux hyper habitables, pour justement pérenniser l'espèce humaine et d'une certaine manière prolonger les fictions dans lesquelles on baigne depuis la révolution industrielle et qui se sont notamment ancrées de plus en plus avec le consumérisme de masse depuis la Seconde Guerre mondiale.
Et donc, parce que là, on parle de design d'innovation, ça peut paraître un peu conceptuel. En plus, sur les thématiques du domaine spatial, on a du mal à se le figurer. Comment le design d'innovation peut sortir de cet aspect conceptuel et amener à l'action concrète?
En fait, là, le but... je reviens sur ta question précédente par rapport à comment mettre en place des nouvelles fictions. Là, le but, en tout cas dans ma thèse, ça n'est pas de créer une fiction qui sort toute pièce, mais c'est de faire, de déployer des nouvelles méthodes de co-design fiction, c'est-à-dire de créer un récit collectif qui émane du collectif, qui sera porté par un collectif et qui puisse vraisemblablement changer nos modes de vie, nos comportements et mettre en place une forme d'introspection qui pourra justement décoloniser l'imaginaire prédominant qu'on a depuis la révolution industrielle et la Seconde Guerre mondiale, et de construire du coup, de non pas être dans les ruines du capitalisme, mais de marquer non plus une bifurcation, mais une mutation de notre manière de percevoir le monde, de notre manière de designer, de notre manière d'innover, de notre manière d'être humain. En fait, ça pose des questions existentielles, ces fictions de la colonisation spatiale et ces fictions liées au système capitaliste. Ça pose des questions notamment existentielles dans le sens des questions ontologiques relatives à l'être humain. Est-ce que nous sommes des êtres humains? Est-ce que nous sommes des êtres terriens? Est-ce qu'il vaut mieux miser sur l'habitabilité de la planète Mars, ou alors est-ce qu'il vaut mieux miser sur l'habitabilité de la Terre, en sachant que la Terre, on a toujours vécu sur elle, que jusqu'à présent, on ne sait pas vraiment vivre en symbiose avec elle, puisqu'on est arrivé dans l'ère de l'Anthropocène. Et donc ça pose une question à savoir comment on veut habiter, par exemple, sur Mars. Est-ce qu'on va reproduire les mêmes modèles qu'on a mis en place, nos mêmes modes d'existence? Est-ce que en fait, en soi, ce modèle-là et ces fictions-là sont pérennes dans le temps? Ça pose aussi des questions d'ordre axiologique, c'est-à-dire relatif à nos valeurs. Quelles valeurs on veut mettre en avant? Est-ce qu'on veut mettre en avant la valeur du progrès, de la croissance, ou plutôt la valeur de la coopération, la valeur de l'harmonie, de la symbiose, qui est un grand mot? Et ça pose également des questions d'éthique. C'est pas parce que on sait faire une bombe atomique qu'on est obligé de la faire exploser sur notre voisin. C'est pas parce que on sait aller dans l'espace que pour autant on est obligé de, pour le coup, faire des plans sur la comète et de dire que on va enlever la vie de la Terre pour la préserver et la mettre sur un autre milieu. Je pense que là, on est vraiment arrivé à un carrefour où on doit prendre une direction qui doit être claire, peut-être qu'elle doit être radicale, mais en tout cas, on est dans un carrefour qui nous pose des questions existentielles et qui va falloir répondre. Et je pense que le récit, c'est un bon moyen de commencer à déclencher des réflexions, des introspections et aussi de nous projeter dans l'avenir. Car jusqu'à présent, on a du mal à se projeter dans le long terme. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce modèle du capitalisme néolibéral, c'est qu'il arrive à... Il arrive à manger un peu et à s'accaparer l'ensemble des imaginaires en le transformant toujours de sorte à ce qu'il puisse se nourrir et se reconstituer. Et du coup, repenser les récits, en fait, c'est repartir directement à la racine et non plus parler de transition, mais aller directement au cœur du problème, qui sont nos représentations et nos relations que nous tissons avec le monde. Et cela passe avant tout par une mise en récit. Parce que, comme le dit Nancy Hudson, nous sommes une espèce fabulatrice, c'est-à-dire que nous fabulons constamment sur quel objet, quelle manière de se comporter, quelle norme, quelle manière de voir le monde.
Du coup, si j'ai bien compris, le design d'innovation et le design fiction a plutôt, au-delà d'une question d'amener à l'action, une question de mettre en débat nos récits collectifs pour inviter à tous aller dans la même direction. Et donc là, sur la question du spatial, quitter cette idée de coloniser forcément l'espace et se recentrer sur notre rapport au vivant, c'est bien ça ?
Oui, oui. En fait, si tu veux, les sciences du design, c'est comme les sciences de l'ingénierie. T'as plein de courants différents. T'as du design centré sur le textile, du design sur le graphisme, du design sur du produit, etc. Le design d'innovation, c'est un mot valise où on répond à des besoins avec n'importe quelle forme. Ça peut être une forme en utilisant des matériaux de textile, un service, un espace, un objet, un graphisme. Ça peut être aussi simplement repenser un lieu. En fait, le design d'innovation en tant que tel, il répond à des besoins tangibles, concrets. Et moi, d'après mes recherches et d'après les outils qui ont émergé dans la sphère du design, il y a notamment le design fiction et le design prospectif, qui, eux, sont des outils qui permettent de repenser et de recréer des nouveaux récits. Moi, j'utilise ce terme de design d'innovation sociale parce que c'est un terme que j'ai pris à travers mes différentes formations, c'est-à-dire à travers les deux masters que j'ai réalisés. Mais en soi, oui, c'est plutôt du design fiction en tant que tel qui permet de repenser des nouveaux récits. Et je pense que l'enjeu actuel, ce n'est pas tant de créer un seul récit qui émane d'une seule personne. Ça, c'est ce qu'on voit à travers les récits et les narrations, les discours qui sont formulés par exemple, des grandes figures comme Elon Musk ou Jeff Bezos, qui portent un récit qui est individuel, bien que ça s'inscrit dans une histoire fictionnelle qu'on peut remonter, comme j'ai remonté tout à l'heure dans la conférence. Mais je pense que, au contraire, si nous voulons changer notre monde et que nous voulons vraiment passer à des nouvelles relations, tisser des nouveaux liens et sortir de ces fictions colonialistes qui nous enferment en fait et qui ne nous permettent plus de nous projeter dans un futur désirable et qu'en fait on n'arrive même pas à penser notre futur sans le modèle capitaliste, ça serait au contraire de créer des fictions en commun, qui n'émanent pas d'une seule personne ou d'un seul héros de groupe, mais au contraire qui émanent d'une collectivité qui peut... Ça peut être un collectif qui soit indépendant et qui travaille par exemple dans une ZAD, mais ça peut être aussi à l'intérieur d'institutions, comme par exemple à l'intérieur d'une région, d'une entreprise. Et ça permet non seulement de re-questionner les valeurs qu'on met au sein d'une entreprise, ça permet de re-questionner, nous, notre rôle dans une entreprise ou dans une institution, dans un lieu, dans une communauté, mais ça permet aussi de créer du lien, de se recentrer sur des valeurs communes, de se recentrer sur qu'est-ce que ça veut dire être humain, qu'est-ce que ça veut dire travailler, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire être sur Terre et qu'est-ce que ça veut dire vivre sur le long terme.
Et donc, pendant ta conférence tout à l'heure, tu évoquais l'idée de faire émoger une cosmosymbiosphère. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce terme, que tu nous expliques un peu ce que c'est que cette hypothèse, cette idée de cosmosymbiosphère.
Oui. Alors, c'est le cosmosymbiocène. Je m'appuie sur un néologisme qui a été développé par Glenn Albrecht, qui est un philosophe anthropologue, il me semble. Je pense que c'est plutôt un philosophe australien qui met en avant une ère qui serait post-anthropocène. Cette ère, elle serait qualifiée comme étant une époque de symbiose entre les humains, les êtres vivants et les milieux. Moi, j'essaye de pousser ce concept, d'où le nom de cosmosymbiocène, vers une ère étendue au-delà des limites planétaires. Mais pour arriver au cosmosymbiocène, c'est-à-dire à une relation symbiotique entre les êtres vivants, les milieux terrestres et extraterrestres, il faut forcément passer par le symbiocène, c'est-à-dire se mettre en relation symbiotique avec le système Terre. Et je pense que, du coup, c'est l'une des seules manières où les fictions non pas de colonisation spatiale, mais d'exploration spatiale, pourront vraisemblablement s'ancrer et se développer et permettre réellement une pérennisation de l'espèce humaine ou au moins de la vie en général.
On l'évoquait tout à l'heure, on évoquait ta thèse, tu la réalises au sein du CNES. Si j'ai bien compris, c'est un peu l'équivalent de la NASA en France. Comment tu travailles avec les chercheurs du CNES? Comment le design d'innovation et le design fiction s'intègrent dans ton travail au CNES?
Oui, alors là, je viens juste de commencer une thèse, c'est vrai, au CNES depuis quelques mois. J'ai commencé en octobre 2024. Alors, pour l'instant, je suis plutôt dans une phase d'études de littérature. Je suis en train de mettre à jour mon état de l'art. Et parallèlement, en fait, j'ai la chance de bénéficier d'une bourse 100% financée par le CNES. Je suis d'ailleurs la première thèse SHS 100% financée par le CNES. Alors moi, j'utilise plusieurs méthodes pour aller sur mon terrain qu'est le CNES. J'utilise des méthodes de socio-anthropologie, ethno-sociologie, ce qui me permettent de cadrer un peu ma phase de recherche sur le terrain, mener mes interviews, mes entretiens semi-dirigés, mes phases d'immersion. J'utilise aussi toute la partie méthodologique liée à la philosophie, mais aussi aux sciences de l'information et de la communication, qui me permettent d'analyser mes données, mais aussi de produire de la connaissance scientifique. Et tout ça, c'est chapeauté par une thèse de recherche-projet par le design, c'est-à-dire que ma thèse est chapeautée par les sciences du design, qui ne sont pas encore, malheureusement, une discipline en tant que telle où on peut inscrire son doctorat, ce n'est pas un CNU. Et là, dans la partie projet, le volet projet de ma recherche, c'est là où j'utilise et que je mets vraiment en pratique en fait les outils de design fiction, de design prospectif et de moi j'appelle ça plutôt du co-design fiction, où je vais mettre en œuvre des ateliers pour repenser justement ces récits qui prédominent dans le secteur du spatial et comment on fait avec les acteurs qui sont dans le secteur du spatial des nouvelles voies possibles et des nouvelles voies possibles et de développement du secteur spatial dans un avenir plus ou moins proche, parce que dès qu'on commence à repenser des nouveaux récits, ça prend forme aujourd'hui et ça se matérialise de suite et les jours à venir, les années à venir, les décennies à venir.
Et je sais pas si tu es en mesure d'en parler, mais comment c'est perçu justement les projets, évidemment c'est SpaceX qui me vient à l'esprit, mais comment c'est perçu par les chercheurs du CNES? Tu parlais d'un malaise tout à l'heure pendant ta conférence.
De ce que j'ai pu entendre, et je pense qu'en fait c'est un peu général et c'est un peu tout à chacun, même en France, je pense. Tout le monde se questionne de l'arrivée au pouvoir de Trump. Là, je parle vraiment pas au nom du CNES, je parle en tant que ma propre personne, de ma propre perception, et pas simplement focaliser sur les personnes du CNES, mais je pense de manière générale, ça questionne tout le monde. L'arrivée de cette nouvelle fiction MAGA, de l'Amérique en premier, et ça... Évidemment, ça met sur la table des craintes, ça met sur la table des peurs qui soulèvent des angoisses, et ça se ressent à tous les niveaux, à toutes les échelles, dans toutes les institutions. Mais je pense que ça n'est pas tant qu'une crainte qui est soulevée dans le secteur du spatial, c'est dans tous les secteurs, je pense que tout le monde est en train de se questionner. Et après tout, si des figures comme ça émergent sur le devant de la scène mondiale, c'est bien qu'au bout d'un moment, on se les ait projetées, on se les ait imaginées. Ces figures-là, elles n'apparaissent jamais du jour au lendemain, et c'est des choses qui sont construites au fur et à mesure, et que... peut-être que ça soit conscient ou inconscient, qu'on a désiré qu'elles adviennent. En fait, je pense qu'au contraire, le devoir des figures comme Elon Musk, ça nous projette... Elon Musk, il a l'effet d'un miroir où on se regarde en face, en fait. On se rend compte des dérives qu'on peut avoir dans nos manières de penser, dans nos manières de construire nos imaginaires. Et on est face à nous-mêmes, c'est-à-dire à une impasse. Et ça questionne tout le monde à toutes les échelles, dans toutes les institutions. Voilà.
Et donc aujourd'hui, tu es venue à l'ESAM pour une journée d'études intitulée « Décoloniser nos imaginaires », qui est articulée notamment avec la 7e édition de Chantier commun. Quel était l'intérêt pour toi de participer à cette rencontre et de venir parler de tes sujets d'études à l'ESAM?
Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'un des enjeux majeurs actuels qu'on doit vraiment enrichir et par tous les moyens, c'est de créer des nouveaux réseaux, de faire réseau, se rencontrer, discuter, proposer des nouvelles idées, les confronter, les mettre en débat. Et je pense que c'est que de cette manière-là qu'on pourra véritablement avancer et changer nos manières de vivre et changer notre manière d'imaginer, de se projeter. Mais c'est aussi une manière de se questionner soi-même, mais aussi collectivement, sur quels imaginaires, quelles fictions nous conditionnent au quotidien, quotidiennement, pour justement faire un travail de décolonisation. Donc ça passe avant tout par nous-mêmes, nous tout seuls en tant qu'individus, mais ça passe aussi comme des journées ici, des journées d'études à l'ESAM, qui sont plutôt des décolonisations psychique ou mental, fictionnel, d'un point de vue un peu plus méso, collectif, en commun.
Je voulais terminer par une question sur ton engagement associatif. Tu nous as parlé tout à l'heure de Zoé Polis, mais tu es aussi membre de l'association Aéro Décarbo, qui encourage à la transition du secteur aérospatial vers un monde respectueux des limites planétaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association et de ton engagement dans celle-ci?
Alors oui, mon engagement, il est très minime dans cette association. Je vous invite à aller regarder les rapports qui ont été émis par l'association et qui est porté notamment par Marlène Deban, qui est la présidente. En fait, moi, je suis rentrée dans cette association en premier lieu parce qu'il y a un collègue qui s'appelle Loïs Miro qui travaille sur l'impact des débris spatiaux. Des débris spatiaux, évidemment, dans l'espace extra-atmosphérique, qui m'a appelée pour travailler à deux sur les questions, les enjeux et les influences de l'imaginaire dans le secteur spatial, notamment liés avec les enjeux écologiques. Et c'est en fait de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'association. On a commencé à écrire un premier article qui s'est plutôt transformé en un gros bouquin, mais pour l'instant qui est en stand-by, mais on a quand même eu l'occasion de présenter nos travaux à Utrecht lors d'une conférence aux Pays-Bas. Et voilà, pour l'instant, ma participation est assez... Elle est minimale, quoi. Je ne fais pas partie de la... Je suis pas la membre la plus active de cette association-là, même si je suis de tout cœur avec eux et que je suis un peu de côté et que je suis vraiment prise par mes recherches doctorales.
Merci beaucoup, Mara Godon, d'avoir répondu à nos questions. On le rappelle, tu es designer et chercheuse d'innovation écologique, sociale et sociétale. Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Cette semaine, c'est la 26e semaine du cerveau. À cette occasion, plusieurs événements sont organisés par les chercheurs et chercheuses de l'Université de Caen. Demain à 18h par exemple, venez assister à la conférence « Face aux troubles de la mémoire, le rôle du soutien social » à l'amphi Pierre d'Or. Et jeudi 13, découvrez les recherches en cours sur les troubles anxieux et le syndrome de stress post-traumatique à 18h15 à l'amphi de la Maison de la Recherche en sciences humaines. Pour vous inscrire et retrouver tout le programme de cette semaine, rendez-vous sur le site de l'UNICAN. Ce mercredi de 14h à 16h, le Dôme vous invite pour son atelier « À fond les manettes ». La mission, imaginez en 2h top chrono la manette la plus adaptée à une situation donnée, l'occasion de laisser parler votre créativité avec Makey Makey, un circuit imprimé capable de transformer n'importe quel objet du quotidien en bouton ou en joystick. C'est gratuit, pensez à vous inscrire en amont sur le site du Dôme. Et enfin, samedi 15 mars, rendez-vous à 10h30 au centre de multi-activités de Biéville-Beuville pour une conférence « Rencontre avec les mammifères marins de Normandie ». Venez découvrir, reconnaître les animaux de nos côtes et apprenez à les protéger avec une chargée de mission animaux marins du groupe Mammologique Normand. C'est gratuit, sans réservation et tout public à partir de 6 ans. C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pourrez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm. Merci à Émile à la technique. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Bastien pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.